Radio Okapi. Le journal, c'est tout de suite avec Grace Hamzati.
Manifestation ce jeudi des jeunes au centre commercial Diga Barrière à une vingtaine de kilomètres au nord de Bounia, Ituri. Les manifestants exigent la libération du président des G5, une structure qui regroupe les cinq communautés qui se disent victimes des atrocités des groupes armés. Le gouvernement provincial du Maïndombe apporte une assistance en vivres et non vivres aux déplacés de Kwamout qui vivent encore à Maluku, ici à Kinshasa, mais aussi ceux qui ont déjà regagné le territoire de Kwamout. L'invité de ce journal est l'ingénieur Jean-Firmin Nzouli Fanka, l'un des responsables techniques de la régie des eaux au Nord Kivu, qui nous parle de la problématique des dessertes en eau potable dans la ville de Goma. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri, où plus de 1000 jeunes, dont certains munis d'armes, ont manifesté ce jeudi au centre commercial Diga Barrière, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Selon des sources locales, ces manifestants voulaient progresser à Bounia pour obtenir la libération du président des G5, une structure qui regroupe les cinq communautés victimes des atrocités des groupes armés. Cette nouvelle a créé une psychose ce jeudi dans la ville de Bounia, où certains commerçants ont suspendu leurs activités. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
D'après des sources sécuritaires locales, ces jeunes présumés miliciens des Zaïre sont venus de plusieurs localités, dont Bijo, Ngasba, Kanisonga, Mundo, Dengo, Akwe, Dala, Jina, Lopa et Katoto. Ils ont barricadé les différentes artères du centre commercial Diga Barrière. Toutes les boutiques, marchés et stations-service, ainsi que les services publics générateurs des recettes, n'ont pas ouvert leurs portes. Le trafic est également perturbé sur la route nationale numéro 27. Ces hommes armés se rassemblent pour progresser à Bounia en vue de libérer le président du G5, Christian Outeki, arrêté mercredi à Bounia par la justice militaire pour participation à un mouvement insurrectionnel. Cette présence des hommes armés inquiète la population locale qui sollicite l'intervention du gouvernement pour éviter les dégâts.
Il y a des jeunes qui se sont réunis pour aller récupérer Christian Outeki. Ils sont vraiment bien armés. Le tout, on a fermé ici, je vois. Il n'y a pas à manger, on ne sait pas quoi faire maintenant. Boutique fermée, il y a des djangfas là, tout fermé. Je peux demander aux autorités de voir la situation, d'arranger donc le tout à l'amiable.
Une psychose s'observe également à Bounia, où certains commerçants ont fermé ce jeudi matin leur maison de commerce. Des leaders communautaires auraient dissuadé les manifestants de venir à Bounia. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Par ailleurs, 87 détenus de la prison centrale de Butembo venus du territoire de Rutshuru ont été libérés mercredi par une délégation de la Cour d'appel du Nord Kivu qui séjourne dans la région de Beni Butembo. C'est un motif de satisfaction pour les réseaux des droits de l'homme REDO, cette organisation des droits humains qui avait plaidé pour ces libérations. Le REDO demande cependant au gouvernement provincial de tout mettre en œuvre pour prendre en charge le retour de ces ex-détenus dans leur famille. Maître Mouindo Asivinyo, coordonnateur du REDO, les dit au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Le REDO salue la libération de tous les détenus venus du territoire de Rutshuru. 48 détenus ont été libérés de la prison puisqu'ils sont venus des zones contrôlées par les forces loyalistes, les FRDC. D'autres qui sont restés, c'est-à-dire 39 détenus, sont ici des zones contrôlées par le mouvement rebelle M23. Et qu'il a été décidé que ceux-ci seront évacués à Goma, où au moins chacun a un familier, en attendant que la paix revienne dans leur zone. Ici, le REDO remercie tout le monde qui a contribué pour cette libération, et plus particulièrement le premier président ainsi que le procureur général près la cour d'appel du Nord Kivu, qui ont eu à constater les irrégularités dont vivaient ces détenus et surtout les conditions très critiques passées à la prison. Et si le REDO appelle le gouvernement provincial ou toute personne de bonne volonté de tout faire pour que les détenus restés à prison soient évacués à temps à ville de Goma.
Ici à Kinshasa, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, parti de l'opposition extra-parlementaire, félicite le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement pour l'organisation réussie des 9e Jeux de la Francophonie en RDC. Par la même occasion, le président national de ces partis, Justin Moudé-Kérésa, demande que l'attention accordée à cette organisation soit aussi accordée à la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Dans une déclaration faite hier, ces partis politiques sollicitent aussi un espace pour donner son plan de sortie des crises. Écoutez plutôt Augustin Bissimo, secrétaire du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, joint par Fulbert Balolagué.
Nous avons estimé qu'il était important d'adresser une correspondance au président de la République dans le souci de pouvoir les féliciter avec l'ensemble du gouvernement pour l'organisation réussie des 9e Jeux de la Francophonie. Nous, en tant qu'opposition républicaine extra-parlementaire, il importait de pouvoir en tout cas encourager le gouvernement dans ce sens-là. Mais de notre côté, nous avons estimé que l'attention qu'ils avaient mise à ces Jeux a fait que nous puissions réussir ensemble ce jeu-là. Nous avons conseillé que cette même attention soit focalisée sur la partie est de notre pays, là où nos territoires sont entre les mains des étrangers, bientôt une année. Et donc, nous avons conseillé que l'attention puisse être focalisée à la question, n'est-ce pas, de la paix dans la partie est. Au même moment, nous avons proposé aussi que nous puissions donner notre plan de sortie des crises, parce que nous avons un plan pour sortir la RDC de ce bourbier dans la partie est pour que la paix règne dans notre pays.
Autre nouvelle, 13 000 nouveaux policiers seront bientôt recrutés dans toutes les provinces. Annonce faite par le vice-premier ministre de l'Intérieur au cours d'une rencontre tenue hier mercredi ici à Kinshasa avec les responsables de la police nationale congolaise. Pour Peter Kazadi, ce recrutement a pour objectif de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans la foulée, il annonce des nouvelles mesures qui vont permettre de lutter efficacement contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Parmi ces mesures, il y a la délocalisation de tous les arrêts qui encombrent les carrefours, l'interdiction d'accès en ville aux gros camions avant 22h et aussi l'observance stricte par tous du code de la route. Et puis, le procès de François Béya, ancien conseiller spécial du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière de sécurité, a repris hier mercredi à la Haute Cour militaire de Kinshasa. Tous les prévenus ont introduit une nouvelle demande de liberté provisoire. La Haute Cour militaire promet d'examiner ces demandes introduites par Guy Vanda Noa, les colonels Pierre Kalenga, Lili Tambwe, Maoua et Tite Mokili. Elle prend aussi acte de tous les moyens exposés par les avocats et les a invités à déposer les soubassements avant de rendre son verdict sur les demandes de mise en liberté provisoire. La Cour désigne une nouvelle composition et décide de poursuivre l'affaire même sur le cas de François Béya qui sera jugé par défaut. Pendant ce temps, au Sud Kivu, la crise persiste à l'Institut national d'études et recherches agricoles INERA Mulungu. Les agents et cadres de cette institution de recherche sont en arrêt de travail depuis quelques jours. Ils accusent le gouvernement provincial d'avoir spolié une dizaine d'hectares dans le territoire de Kabare. Le gouvernement provincial nie toute responsabilité dans cette affaire et promet de faire toute la lumière. Les détails avec Emmanuel Elamejua Kabedi.
La situation de spoliation de la concession de l'INERA Mulungu date de quelques jours. Les agents affirment avoir vu des privés entamer les travaux de construction dans l'espace réservé aux recherches agricoles.
Notre centre de Mulungu est en voie de disparition à cause de différentes spoliations successives. Et les gens ont déjà débuté à construire, mais les agents en colère sont descendus. Ils ont démoli les maisons de construction déjà construites. Nous ne travaillons pas jusqu'à maintenant parce que le dossier de spoliation nous met mal à l'aise.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu nie toute implication dans la spoliation de l'espace de l'INERA Mulungu. Le ministre provincial des Affaires foncières affirme avoir invité les délégués syndicaux pour en discuter. Jérémy Bassimane.
Nous avons été alertés de cette manifestation des agents de l'INERA Mulungu qui ont barricadé la route par là d'une prétendue spoliation. L'autorité provinciale m'a demandé d'y aller, rencontrer avec des agents, qui a dit que chaque fois qu'il attend parler des spoliations, elle sera là et va raconter cette délégation et je vous rappelle qu'une solution sera trouvée.
Signalons que l'INERA Mulungu est plusieurs fois victime de spoliation de sa concession au Sud Kivu. C'est notamment 160 hectares spoliés à Bunyakiri, 90 hectares à Nyamunyoni et 50 hectares dans le territoire de Mwenga. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Province du Kwilu, lancement hier mercredi à Bandundu par le vice-gouverneur de cette province, Félicien Kiwai, des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 17, RN9, allant de Bandunduville jusqu'au chef-lieu du territoire de Bagata. C'était à l'esplanade de l'école primaire Masonga en présence de plusieurs autorités. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires lancé par le gouvernement central. Financé par les trésors publics, les travaux vont s'exécuter en déjà 10 mois par l'entreprise congolaise a dit construction sous le contrôle du bureau technique des contrôles sous la surveillance de l'office des routes. Le point avec Irène Bouma.
Longue de 135 km, la route qui relie la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, à la cité de Bagata, en passant par le village Bonkulu, est dans un état de dégradation très avancé. Prenant la parole lors de la cérémonie hier mercredi du lancement officiel des travaux de réhabilitation de cet axe routier, le directeur provincial de l'Office des routes Kwilu, l'ingénieur Michel Misse Kamubake, explique en quoi vont consister ces travaux.
Les travaux vont consister en débroussaillage et nettoyage de l'assiette de la route, purge de boulier, désensemblement de la chaussée, de meubles et remblais provenant d'emprunt, rechargement de la chaussée par une couche de roulement matériaux sélectionnés, reprofilage avec ou sans apport de matériaux, assainissement par création des fossés et saignées, construction ou réparation des ouvrages d'art et maintenance pendant une année par cantonnage manuel après les travaux de réhabilitation.
Il s'est de noter qu'une fois cette tronçon d'intérêt économique capital sera réhabilité, il permettra la célérité dans les échanges commerciaux, notamment l'évacuation des produits agricoles de Bagata vers Bandundu et des produits manufacturés de Bandundu vers les territoires de Bagata. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Je l'ai dit au sommaire, la gouverneure de Maïndombe vient de voler au secours des déplacés de Kwamout qui vivent encore à Maluku, dans la capitale Kinshasa, et ceux déjà retournés au village Kinsele dans les territoires de Kwamout. Il s'agit des personnes qui ont vécu pendant plusieurs mois à l'extérieur de leur milieu à la suite de l'insécurité. Rita Bola remet un lot de vivres et non-vivres à Kinsele pour permettre à plus de 500 personnes de survivre pendant les premiers jours de leur retour au village depuis 2 semaines. À Maluku, près de 700 personnes déplacées ont aussi reçu cette assistance du gouvernement de Maïndombe. Outre les vivres et non-vivres, la gouverneure met aussi à disposition un moyen de transport pour le retour de ces déplacés. Oscar Lukusa, le porte-parole de Rita Bola, précise que la sécurité est renforcée à Kwamout. Il est joint par Irène Bouma.
Depuis que ce coin a connu vraiment des atrocités intenses, il y a eu maintenant 545 personnes qui ont regagné le village. La vie a repris vraiment son cours normal parce qu'il y a maintenant la sécurité qui a été renforcée. Il y a des militaires partout qui sécurisent vraiment la population. Mardi, nous avons encore effectué une descente à Maluku parce que la population de Kwamout s'était dispersée vraiment partout à travers la République. Alors vous avez vu même le ministre provincial intérieur avait effectué aussi un déplacement au Congo-Brazzaville pour voir encore certains déplacés qui étaient de l'autre côté. Alors nous sommes arrivés à Maluku avec Madame le gouverneur. On a trouvé la population des Kwamoutou qui était là et qui est prête déjà pour regagner la province. Toutes les dispositions ont été prises. On a mis à la disposition de cette population les produits vivre et non vivre. Il y a eu une somme d'argent qui doit quand même aider la population pendant un certain moment et les moyens de transport qui doit aider à évacuer tout le monde vers la province. Il y en a qui peuvent se poser des questions, mais il y a encore des petites tensions passées par là. Est-ce que la population sera en sécurité? Oui, la population sera bel et bien en sécurité. Et nous avons augmenté aussi les dispositifs sécuritaires. Il y a les militaires qui sont partout, commençant par le village Kinsele, vous partez à Machambio, au Kambankou, partout nous avons mis vraiment les soldats et je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter.
Promouvoir la consommation du café produit localement, c'est l'objectif d'une campagne initiée par l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC Sud Kivu, il y a quelques jours. Des actions de sensibilisation et vulgarisation sont menées jusqu'à la prochaine campagne café hier qui commence le 1er octobre prochain. Selon François Kambalé, le café produit au Sud Kivu a été plébiscité meilleur café au monde. Mais malheureusement, l'essentiel de cette production est destiné à l'exportation. Cela a une incidence sur les prix du café commercialisé localement. L'ONAPAC Sud Kivu espère que cette campagne pourra booster aussi les jeunes à entreprendre dans la filière café. Cynthia Bachizinabizana.
Chaque année, le Sud Kivu produit environ 10 000 tonnes de café, mais une production destinée essentiellement à l'exportation. Voilà pourquoi l'ONAPAC Sud Kivu veut changer la donne. Une employée de l'ONAPAC en charge de sensibilisation.
Nous faisons la dégustation et graphique. Et si on est intéressé, on achète, nous avons l'emballage de 50 grammes pour 1500 francs, de 150 grammes pour 4000 francs.
Le café produit au Sud Kivu a été plébiscité meilleur café au monde. Est-ce l'avis de ceux qui dégustent également?
Ça a un bon goût.
Vous achetez même déjà?
Oui.
Donc ça vous a convaincu?
Oui. Déjà, il y a beaucoup de travail à faire. Ça va m'aider pour ne pas avoir le sommeil.
Le fait que la grande partie de la production de café au Sud Kivu soit exportée a une incidence sur son prix. François Kambale, directeur provincial de l'ONAPAC au Sud Kivu, en appelle vivement à un changement des mentalités.
Vous voyez, tout ce que nous produisons sort et les consommateurs se disent alors, ces gens ne consomment pas ce qu'ils nous produisent. Donc à ce moment-là, nous allons leur imposer les prix lors des achats. Et c'est ce qui fragilise quelque part les circuits économiques dans cette filière.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La France et le Mali suspendent la délivrance des visas aux ressortissants de l'autre pays par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris dans un contexte de vives tensions bilatérales et régionales. La France était la première à suspendre en début de semaine la délivrance des visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge formellement déconseillée aux voyageurs.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu, où la croissance démographique rapide observée ces dernières années dans la ville de Goma est un facteur majeur qui explique la difficulté pour la régie des eaux de répondre à la demande d'eau potable. C'est ce que déclare l'un des responsables techniques de cette entreprise, d'après l'ingénieur Jean-Firmin Zouli Fanka, chef des divisions régionales de la régie des eaux. En 2021, la ville de Goma comptait 941 000 habitants avec une croissance démographique de 3,5%. Aujourd'hui, deux ans après, la ville compte 2 448 000 habitants, une réalité qui dépasse leur planification mais aussi les moyens que possède cette entreprise publique. L'ingénieur Jean-Firmin Zoulifanka, qui est notre invité, explique tous ces défis dans cet entretien accordé à Sifa Maguru.
Bonjour messieurs.
Oui bonjour madame la journaliste.
Alors la desserte en eau potable dans la ville de Goma continue à susciter des réactions et des préoccupations. Aujourd'hui vous avez effectué une visite avec les mouvements citoyens, les cadres des bases, une visite des installations de la régie des eaux. Pouvons-nous savoir c'est quoi que vous avez visité comme installation et qu'est-ce qui s'est fait là-bas?
Nous sommes très contents de cette visite avec les mouvements citoyens et la base. Et souvent, nous nous regardons comme des chiens de faïence. C'est un déficit communicationnel qui nous sépare. Et ils ont vu les difficultés qui sont nôtres. On les a montré les travaux que nous sommes en train de faire avec l'appui de la direction générale qui nous a envoyé 3 équipements. Pour renforcer les différents quartiers à manque d'eau. Nous avons d'abord l'usine de Keshero au niveau du lac, et l'équipement que nous sommes en train de poser pour renforcer les quartiers Keshero et Imbide et aussi renforcer les quartiers CCLK et les appendices. Comme je vous avais dit, la direction générale nous a envoyé 3 groupes motopompes, un qu'on a déjà installé à Keshero, et 2 qu'on devrait installer au lac. On a installé 1 pour l'axe Virunga, Mabanga Nord et Mabanga Sud. Vous savez, le problème de Goma, c'est un problème démographique. En 2021, Goma n'avait que 941 000 habitants, avec une progression, une croissance de 3,5%. Aujourd'hui, en 2023, Goma a 2 448 000 habitants. Donc, dans 2 ans, la population s'est multipliée par 3 et les infrastructures ne suivent pas. Donc, il faut entrer dans notre plan directeur de 200 millions pour que nous puissions ériger des infrastructures adéquates afin de résoudre ce problème de manque d'eau qui se pose avec beaucoup d'acuité.
Mais pourquoi la régie des eaux n'a pas prévu tout ça au départ? Pourquoi attendre que la population commence à se soulever et accuser la régie des eaux de tous les maux pour trouver une solution?
C'est un problème d'investissement. Je vous ai dit, ça nous demande 200 millions de dollars pour réaliser ce travail. Dit que nous sommes surpris par la population. Vous connaissez la cause, c'est la guerre nous imposée par l'M23 et le Rwanda. Et vous savez, les infrastructures en matière d'eau, c'est pas 1 année, 2 ans. On les fait pour 15 à 20 ans. Comme je vous dis là, le plan directeur qui était monté en 2021.
Mais vous avez aussi des appuis. Il y a le CICR, il y a MerciCor, il y a pas mal d'ONG qui financent aussi la régie des eaux.
Vous savez, nous sommes à l'ère de la guerre de l'Ukraine. CICR est prête pour nous appuyer. L'UNICEF est prête pour nous appuyer et d'autres partenaires. Si les fonds sont là, nous travaillons pour la population.
Un autre problème, monsieur, c'est c'est la distribution de l'eau par les camions-citernes dans les quartiers, surtout périphériques de la ville. Les mouvements citoyens, les jeunes en particulier, accusent la régie des eaux de privilégier ce moyen de distribution qui vous procure de l'argent, selon ces jeunes, au détriment de la distribution normale que fait la régie des eaux en tant qu'entreprise publique.
Vous devez savoir, madame, que ces volets de camions-citernes ne représentent même pas les 1% du chiffre d'affaires de la région. Les camions-citernes, effectivement, pour pallier aux zones périphériques. Nous, nos camions-citernes travaillent pour des ONG dans des camps de réfugiés. Ils prennent l'eau pour donner aux camps de réfugiés. C'est pas pour un but lucratif.
Mais on les vend aussi dans les quartiers.
Oui, dans les quartiers, il y a des particuliers qui achètent l'eau et qui puissent de l'eau de là, parfois aussi non traitées, qui ne sont pas de la régie des eaux.
Donc il n'y a aucun responsable de la régie des eaux qui détient aussi des camions-citernes et qui vend l'eau dans les quartiers?
Non, la régie des eaux c'est une personne morale bien contrôlée, où la gestion est contrôlée. Nous ne pouvons pas favoriser ces histoires-là.
Un dernier message à la population qui souffre, vous le savez, nous sommes pendant la saison sèche. La carence en eau potable provoque beaucoup de conséquences. Qu'est-ce que vous dites à la population en quelques mots?
Nous disons à la population de prendre l'air mal en patience. C'est un problème de jour parce que l'équipe de la régie des eaux ne dort pas. Jour et nuit, nous sommes en train de travailler pour faire avancer ces projets.
Merci beaucoup, monsieur.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, ingénieur Jean Firmin Faka, était interrogé par Sifa Maguru. Fidèles auditeurs, voilà qui met un terme à ce journal, coordonné par Blaise Shindani Kambala et supervisé par Ben Kabamba. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde, à vous également qui nous avez suivis. Au revoir.